le travail d'Alain Mercier. Je me considère un peu comme un dinosaure des travaux en didactique, puisque j'ai été en quelque sorte un témoin oculaire de la carrière d'Alain Mercier depuis la première école d'été de didactique des mathématiques. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de mes travaux et des travaux des personnes, des chercheurs qui ont travaillé avec moi à l'Université de Genève en didactique comparée, mais il va sans dire qu'en évoquant le parcours d'Alain Mercier, c'est mes clés de lecture. Et c'est donc en quelque sorte les éléments de l'évolution du travail d'Alain qui font écho aux préoccupations qui ont été les miennes pendant ces 30 ans. Ça paraît énorme de dire plus de 30 ans maintenant de travaux. Donc j'ai intitulé cette contribution « La part » ou « L'énorme part » d'Alain Mercier à l'émergence d'une didactique comparée ou du travail comparatif en didactique. On pourrait longuement débattre sur cette différence d'appellation. Et j'insisterai tout particulièrement sur la question de la force, de ce que j'appelle la force du programme didactique. Donc, vous verrez que sans qu'il y ait eu aucune concertation, ce que vous avez entendu de la part de Maggie Schneider ce matin, il y aura évidemment des recoupements. Alors, du point de vue didactique, certaines formes de répétition avec des ondes d'attaque différentes peuvent être peut-être utiles aussi. Alors, j'aime bien insister sur le fait que, de mon point de vue, et je l'ai encore ressenti très fortement ce matin avec les différentes interventions, il y a un problème autour de la nomination des concepts. Et les mots sont des pièges pour que l'analyse épistémologique de ce qu'on est en train de faire puisse vraiment être menée à bien. Je dis d'emblée que, j'essaierai de m'en expliquer tout au long de ce court exposé, que dès le départ, donc dès le début des années 80, dès l'émergence de la notion de transposition et la précision donnée par Brousseau de la notion de situation didactique, Alain n'a pas arrêté de mettre sur le métier ses concepts à la fois du point de vue empirique et du point de vue théorique et épistémologique. Et il l'a fait sous couvert de didactique des mathématiques. Pourquoi je parle de piège des noms des concepts ? Chaque fois que dans les textes de Alain, dans les articles de Alain, on voit apparaître le mot transposition ou situation, le lecteur aurait tendance à dire « Ah, ben ça, c'est au service de l'école chevalardienne. » Et ça, eh bien, il ratisse du côté de Brousseau ou il sert la théorie de Brousseau. Donc on est tenté de voir systématiquement une continuité. C'est Yves ce matin qui parlait de prolongement d'une théorie dans l'autre, alors que peut-être on aurait intérêt à se dire, même si les chercheurs appartiennent à une même communauté, si Guy Brousseau avait dû inventer la théorie de la transposition, avec les présupposés épistémologiques qui sont les siens, il aurait peut-être, je pense, vraisemblablement construit une théorie de la transposition et une théorie de d'une approche anthropologique qui ne serait pas superposable à celle que nous propose Yves Chevalard. De même que Yves Chevalard a été explicite sur ce point, même s'il reconnaît l'importance de la théorie des situations didactiques chez Brousseau dans son cursus théorique propre, il aurait fait une théorie des situations didactiques qui ne serait pas l'équivalent de celle de Brousseau. Mais donc ceci pour dire qu'Alain, en travaillant sur ses concepts tout le temps, et encore, et sous couvert de didactique des mathématiques, qu'il a en réalité opéré des déplacements, que Maggie Schneider a pointé également ce matin, mais qui me paraissent décisifs, notamment pour vous montrer pourquoi à un moment donné, Alain Mercier s'est trouvé à l'aise, et plus qu'à l'aise, puisqu'il a participé à sa construction, dans un projet de recherche du didactique, d'étude du didactique sous couvert d'une didactique comparée. Alors, pour cela, il lui fallait, j'estime, et il a œuvré pour ça, créer un nouveau lieu institutionnel, autre que la didactique des mathématiques. Mais aujourd'hui, et d'ailleurs, il y en a qui s'en excusent de ne pas être didacticien des mathématiques. Ce n'est pas une honte d'être autre chose que didacticien des mathématiques. Mais on a l'impression que, du coup, on est dans une chasse gardée qui est celle des didacticiens des mathématiques. Mais ce nouveau lieu institutionnel, il l'a trouvé. Et quand je dis il l'a trouvé, c'est que c'est par, j'estime, la communauté de recherche comparatiste du didactique ordinaire que Alain Mercier a pu dire et assumer les déplacements qu'il a opérés dans les deux théories initiales. Et d'ailleurs, le texte, le fameux texte qu'évoquait Magui ce matin, qui est de, je ne sais même plus quelle année exactement, l'article pour une lecture anthropologique du programme didactique, 2008, je crois. Eh bien, c'est dans cet article-là que Alain Mercier dit explicitement qu'il opère un changement de paradigme à l'intérieur des travaux didactiques. Il lui fallait également assumer complètement le fait qu'il le faisait depuis des laboratoires de sciences de l'éducation. Donc, je ne vais pas évoquer ici l'importance qui a été attribuée pendant des années, dans le cadre de la didactique des mathématiques, mais toutes les didactiques se sont débattues sur cette question, d'essayer d'être reconnues par les sciences mères, et donc celles des savoirs de référence, donc en l'occurrence les mathématiques pour le cas de la didactique des mathématiques, et donc en considérant, avouons-le ouvertement, les sciences de l'éducation comme un pis-aller. Si on ne trouve pas de place dans des laboratoires autres que les sciences de l'éducation, on veut bien céder à cette insertion, alors qu'aujourd'hui, on peut dire haut et fort, et peut-être que les didacticiens ont largement contribué à l'évolution des sciences de l'éducation, que c'est dans ces laboratoires-là qu'ont pu être effectivement réalisés un ensemble de recherches didactiques, et en particulier sur ce qu'on va appeler le didactique ordinaire. Et puis, autre emboîtement institutionnel, pourrait-on dire, c'est la référence explicite aux sciences humaines et sociales qui a été invoquée par Alain et qui fait que, du coup, les lieux de validation prennent une autre signification que celle initiale en didactique de mathématiques. Donc voilà que naît un programme didactique. L'appellation est bien de Alain Mercier, qui a en quelque sorte dessiné le passage de ce qu'on pourrait appeler l'étude des conditions épistémologiques nécessaires, voire possibles, pour la transmission d'un corps de savoir donné, à l'étude des conditions effectives et concrètes inhérentes aux transactions didactiques in situ. Ça a déjà été dit plusieurs fois ce matin. Mais vous le verrez, j'estime que ce déplacement n'est pas un renoncement au projet initial de la didactique, qui est tout de même, et ça a été évoqué également, une façon de contribuer à l'amélioration des conditions qui sont faites dans les classes pour que non seulement un sujet épistémique puisse éventuellement être repéré comme étant emblématique d'une possible évolution des savoirs, mais qu'une majorité d'élèves de toutes conditions puissent effectivement accéder aux différentes cultures scolaires et partant au projet d'une société en mutation. Mais donc, affirmer haut et fort la nécessité de, on pourrait dire, partir par le bas, pour essayer de comprendre si ce qui se passe et se joue dans ces situations est vraiment au fondement de ce que Alain appelle le programme didactique. Et dans ses écrits, il le dit d'ailleurs dans ces termes, programme didactique signifie étude comparative. Il a peu évoqué cette question, sinon en parlant des singes ce matin, comme cas presque extrême. Mais j'ai l'impression que les travaux de Alain se sont libérés d'un ensemble de contraintes du moment qu'il s'est senti autorisé, sous couvert de ces différentes institutions que j'évoquais tout à l'heure, à aller voir du côté de, d'autres chasses gardées et d'autres savoirs disciplinaires. Et j'essaierai de vous le montrer en mettant justement à l'épreuve l'ensemble des concepts qui faisaient partie de son... de sa besace de chercheur en didactique des mathématiques, en essayant justement de voir leur caractère générique et spécifique. Donc c'est bien la mise en système des concepts fondamentaux en choisissant ceux qu'il estime être à vocation générique, avec parfois quelques glissements qu'on évoquera tout à l'heure, et il s'engage dans la mise en évidence des différentes formes de spécification que nécessite l'étude didactique. Et là, vous le verrez, j'insisterai particulièrement sur le fait que spécification ne veut pas dire seulement spécification du côté du savoir. Et ça, c'est un effet du travail du côté d'un programme didactique. Quand je disais quelques glissements, c'est que la force de certaines théories, et en particulier la force de la théorie des situations didactiques de Brousseau, a parfois amené Alain à vouloir utiliser certains descripteurs ou à laisser entendre qu'on pouvait utiliser certains descripteurs de la théorie des situations didactiques, notamment la dialectique de l'action, formulation, validation, ailleurs qu'en mathématiques, alors que, explicitement, Brousseau avait créé ce modèle comme étant justement un modèle permettant aux élèves d'entrer dans un système d'objets compatible avec les savoirs mathématiques de référence. On verra que le même processus se produit du côté de la notion de adidacticité, ou plutôt de situation adidactique. Il s'est donc engagé dans un retravail des concepts fondamentaux de la didactique des mathématiques. Et nous l'avons vu ce matin, je ne m'attarderai pas, la notion, je dis la notion pour ne pas dire la théorie, et je le fais expressément, la notion de transposition didactique s'est transformée dans le travail de Alain dans une théorie de l'espace et du temps didactique. On pourrait dire que c'est réducteur quand on voit par ailleurs l'évolution de la théorie de la transposition, alors que justement ça ne l'est pas, puisque le projet d'Alain était justement d'instaurer ce mouvement ascendant, de systématiser ce travail ascendant de la transposition didactique, et qu'il avait donc besoin de la retraiter in situ comme une théorie de l'espace et du temps didactique, alors que différents travaux avaient déjà été menés avec Yves Chevalat sur la notion de temps didactique. Donc bien, analyse ascendante des savoirs, et là j'insiste sur deux dimensions. Quand on parle d'analyse ascendante, il y a à la fois, et c'est peut-être le versant le plus original et déjà évoqué par Magui, le fait que ce n'est pas banal d'essayer d'identifier quels sont les savoirs transposés qui viennent à vivre dans l'institution d'un contrat didactique donné, avec le risque qu'on découvre que tout s'est filoche, qu'au fond, des savoirs se perdent, que justement, on œuvre essentiellement dans le travail conjoint entre les élèves et l'enseignant à maintenir une relation didactique plus qu'à traiter des objets didactiquement denses. Et donc ça, c'est déjà un exercice dont Alain nous a montré qu'il doit passer à la fois par des analyses très fouillées de processus en train de se faire, et donc par des protocoles qui retracent le détail de l'épisode, mais aussi par des contractions du temps didactique, pas seulement, je le dirais autrement que ce que disait Alain ce matin, parce que c'est on a trop de matière, mais aussi parce que cette compression permet de voir d'autres phénomènes que l'étalage ne permet pas de mettre en évidence. Mais aussi, et c'est l'autre aspect de l'analyse ascendante, que Alain fait d'une façon que j'ai rarement trouvée ailleurs, c'est la mise en perspective des savoirs transposés qui pourraient se nicher dans une situation didactique donnée. C'est-à-dire qu'il sait cueillir dans certaines questions d'élèves, dans certaines interventions d'enseignants, dans le pointage de certains aspects de la situation observée, des éléments de savoir que l'enseignant ne peut ou ne sait pas, et ce n'est pas un manque à savoir personnel, donc, comme le dit bien Alain, mais ne peut pas, en la circonstance, cueillir l'occasion pour le transformer en un savoir, effectivement, qui vient à vivre. Dans ce travail, justement, sur l'espace et le temps didactique, enfin, en 2008, Alain peut le dire, c'est une position épistémologique nouvelle en didactique. Je ne l'ai pas vue sous sa plume avant. C'est intéressant, il faut des années pour pouvoir, en quelque sorte, positionner un retravail des concepts qui en change, justement, la nature. Ça a été dit également ce matin, mais je le dirai peut-être autrement. La centralité du triplet de Genèse, méso, topo et chronogenèse, eh bien, si cette centralité l'a amené à mettre en avant l'étude via la mésogenèse, ce n'est pas parce que la mésogenèse prime dans la réalité des pratiques. Mais c'est bien le type d'analyse que choisit de faire le chercheur qui fait que la mésogenèse est considérée comme première pour pouvoir, après, donner une autre portée aux analyses chronogénétiques et topogénétiques. Ce qui veut dire que, justement, une fois qu'il a débusqué dans le flux des événements l'éventuel enjeu d'enseignement, avec toutes les questions méthodologiques de mise en exergue d'un épisode, d'une séance, d'une situation, eh bien, à ce moment-là, on peut procéder à une analyse a priori, dont ça a été dit également. Cette analyse a priori est de fait réalisée après coup, mais donc, comme le disait déjà Claire Margolinas à une époque, elle est faite après coup, mais sans sujet concret en action. Elle est en quelque sorte extraite du fait que c'est un tel et un tel, ou qu'elle est portée par tel sujet plutôt que tel autre. C'est le savoir en tant que tel qui est mis en exergue. Et que c'est à partir de là qu'on peut effectivement imaginer des genèses artificielles possibles pour un enjeu didactique donné. Et que du coup, et là aussi, c'est très tardivement que Mercier peut le dire, l'analyse a priori telle qu'il l'amène n'a pas le même statut que l'analyse a priori telle qu'elle est prise dans les analyses broussaliennes, dans le projet qui était celui de Brousseau, qui consistait effectivement à montrer la portée épistémique des objets, mais il veut la réinscrire dans le travail mésogénétique et chronogénétique. Alors, ça me permet également de dire, du coup, que cette façon de procéder par ascendance du travail d'analyse de la transposition fait que on aurait peut-être intérêt à considérer l'analyse du didactique expérimental, c'est-à-dire cette analyse des projets, des réalisations des projets d'ingénierie didactique, comme on le ferait pour une didactique ordinaire. Donc, ça éclaire autrement l'intérêt qu'il y a à engager des projets d'ingénierie, et ça n'a pas du tout le sort que certains pourraient attribuer à l'approche de Mercier. Quittons l'enjeu d'ingénierie au profit d'une observation ordinaire. C'est un moment, une coupe dans l'évolution de la problématique didactique d'Alain Mercier qui l'a amené à se consacrer aux didactiques ordinaires, mais peut-être pour retourner autrement aux enjeux d'ingénierie. Ce qui est une autre façon d'articuler un programme didactique et un programme épistémologique. Mon hypothèse étant que tout programme didactique coupé d'un programme épistémologique est voué à disparition. Mais donc, mésogenèse telle qu'évoquée tout à l'heure, permet effectivement de revoir autrement les analyses chrono- et topogénétiques. Si effectivement on s'interroge sur quand et comment des événements majeurs prennent forme, bon, événements, on pourrait longuement débattre sur la notion d'événement, mais on s'interroge évidemment à partir des notions de topogenèse, qui agit comment, qui scande l'avancement vers un enjeu didactique identifiable, et du coup en rendant saillant des objets sensibles aux dépens d'autres. Quand je dis cela, ça m'éclaire autrement sur la notion de mésogenèse. Mésogenèse, souvenez-vous que dans la théorie même de Chevallard, cette notion est intervenue après celle de topogenèse et de chronogenèse. Et pendant un certain temps, moi-même, j'ai été un peu mal à l'aise dans la différenciation entre mésogenèse et chronogenèse. Alain s'est retrouvé aux prises avec la même difficulté parce qu'on ne savait plus, lorsqu'on décrit une mésogenèse, est-ce qu'on est dans sans chrono? Est-ce qu'on est dans une espèce de temps suspendu? Et pourtant, il y a une dynamique des objets. Alors que plus on avance dans l'analyse des travaux de Alain, plus on se rend compte, et des nôtres peut-être, si je peux mettre en avant un peu les travaux genevois, et ceux de Francia Lotenegger et de Florence Ligoza en particulier, eh bien on se rend compte que mésogenèse nous permet de prendre en considération un ensemble d'objets, et je dis bien ensemble et pas système. Le flot des objets qui apparaissent, sensibles ou non, pertinents ou non pour l'enjeu didactique visé ou potentiel, et que cette masse d'objets, sûrement surcharge d'objets, constitue un obstacle pour les élèves qui parfois s'accrochent à d'autres objets que ceux qui sont effectivement pointés comme étant majeurs, et que c'est justement la chronogenèse qui est le fait à la fois de l'enseignant, mais parfois de certains élèves, les travaux de Gérard l'ont bien montré aussi, qui permet justement de désolidariser dans l'ensemble des objets ceux qui ne comptent pas ou qui comptent moins, pour mettre en avant ceux qui sont vraiment sensibles au sens fort du terme par rapport au contrat. La notion de situation a également été redéfinie, toujours dans le travail de 2008. Donc, ce n'est pas la situation avec un milieu antagoniste à la Brousseau, c'est une suite de conditions et de contraintes didactiques rencontrées par les élèves dans l'étude d'un savoir, dit-il en 2008. On a l'impression que la notion de situation devient molle, mais en même temps, c'est le seul moyen pour ne pas être pris avant terme ou à tort, parce qu'on n'est pas dans un milieu antagoniste. Il suffit de sortir des mathématiques pour se dire que ce milieu antagoniste, eh bien, on ne sait pas où on le trouve, ou il n'est pas structuré de la même façon, ou il ne résiste pas de la même façon. Et ajoute du coup Alain les notions d'enquête, d'exercice des outils pour traiter justement de situations ordinaires. Et alors je note, quid des situations adidactiques, de la notion d'adidacticité dont a parlé Maggie ce matin. J'ai presque envie de dire que si on était strict sur son système théorique, on aurait envie de dire oui, elle n'a pas place, cette notion de adidactique. Mais Alain y est presque sentimentalement attaché. Et on voit qu'il la glisse régulièrement, comme étant presque un peu en rêve. Oh, ce serait tellement bien si on était dans du adidactique. Mais parfois, les élèves se le créent tout seuls, ou bien des niches didactiques font que. Alors qu'on pourrait décemment poser la question de est-ce que ça a, quelle est l'épaisseur épistémologique en dehors d'une théorie de situation didactique, de poser comme exigence cette idée de situation adidactique. Donc, on se trouve, je ne vois pas, mais j'ai pas 5 minutes. Je trouve, j'arrive bientôt au bout. On trouve, à mon sens, trois formes de spécification qui caractérisent le travail de Alain et que lui-même nomme d'ailleurs ainsi. Je les tourne un peu autrement. Une première spécification personnelle des rapports aux objets et aux institutions. Donc, quand je dis personnel, c'est toutes les composantes didactiques liées aux postures d'enseignants, du grand découpage, la place de l'enseignant, la place des élèves, mais aussi c'est l'occasion, c'est pour ça que je dis bien personnel, c'est l'occasion d'importer tous les assujettis, une partie des assujettissements auxquels sont soumis les élèves et les enseignants qui vont devoir agir dans la situation didactique. Il parle du coup de biographie conjointe. Je n'abonde pas, il en a parlé, et je crois que c'est une des contributions majeures. Et ce qu'on a entendu ce matin sur le fait que cette dimension a été éjectée du titre de la thèse initiale montre bien que la didactique des mathématiques, à ce moment-là, ne savait que faire de cette dimension-là. Elle était embarrassante, de la même façon que Guy Brousseau me disait, un peu vulgairement, qu'est-ce qu'on en a à foutre des filles et des garçons et des différences de classe sociale lorsque j'essayais, en étudiant en thèse, de mettre en avant la notion de contrat didactique différentiel, disons, mais en fait, ça joue un rôle. Donc, par le biais de biographie, Alain Mercier reconsidère des phénomènes semblables et justement, il est amené à montrer des effets différentiels des institutions en montrant la spécification didactique de l'institution et de l'épistémologie des objets. Et évidemment, spécification anthropologique des conditions sociales. Et donc là, on retrouve des strates auxquelles, des strates d'analyse qui sont chères à l'approche anthropologique du didactique. Mais je les prendrai comme des formes de spécification solidaires. On ne peut pas en prendre une sans voir les autres. Et j'arrive au bout. Eh bien, j'estime du coup qu'un programme didactique tel que Alain l'a impulsé oblige les spécifications des disciplines cibles sans craindre les chasses gardées des clans didacticiens. Mais j'ajoute, tout en se soumettant au processus d'évaluation de ces didactiques. Une didactique comparée qui voudrait sortir des didactiques pour se mettre soit en position surplombante, soit en disant « Ah ben moi, je fais avec les savoirs comme j'ai envie ou avec ce que je sais de ces savoirs-là », on risquerait très fortement de tomber dans une forme de pédagogie sans contrôle. Tandis que là, quand je parle d'évaluation, c'est le travail strict de soumission non seulement de la connaissance de l'objet d'enseignement, mais vraiment de ce que ça produit dans les différentes disciplines didactiques. Mais j'ajoute, il permet la clarification à l'intérieur et entre les didactiques des concepts didactiques par la mise à l'épreuve de leur portée générique et le travail de spécification que requiert leur usage. Évidemment, ici, on parle des concepts de la didactique des mathématiques exportés ailleurs, mais on pourrait aussi, et là, l'effort est nettement moins conséquent, se dire, mais pourquoi pas, d'une façon plus systématique, importer d'autres concepts et voir lesquels sont à double usage ou lesquels, pour des raisons historiques, ont rempli des fonctions similaires, mais qui ont été abandonnés ou, au contraire, ils reposent sur des fondements épistémologiques suffisamment différents pour que le débat épistémologique se fasse du côté des sujets et du côté des objets. Parce que ce qu'on a entendu ce matin sur la frilosité de Guy Brousseau à admettre une entrée qui est aussi piagétienne dans ses travaux, ce n'est pas une honte de se dire que Piaget a été à la source de certains travaux. L'important, c'est d'en voir la conséquence et de se dire, mais du coup, quel effet, de quel sujet je parle, quel est le constructivisme que je convoque Et peut-être qu'on pourrait revoir aussi la formule qui me paraît trop facile, qui consiste à dire « c'est une pensée collective ». C'est une pensée collective d'un certain type si c'est une socialisation de pensée individuelle. Et je crois que c'est ça que fait la théorie des situations didactiques. On pense tout seul et on met ensemble. Alors qu'on oublie du coup, et c'est une autre force de la pensée collective, que le fait même qu'on ait affaire à du langage, à des signes, et donc à des structures mentales qui sont déjà là, ça on l'oublie trop souvent, fait que toute opération de pensée, y compris individuelle, est déjà par nature collective, et que donc ce n'est pas parce qu'on est en classe qu'on a on construit une pensée collective, c'est qu'il n'y a pas d'extérieur à une fonction sociale de la pensée. Et donc, je continue de penser que c'est un constructivisme qui correspond à une socialisation de pensée individuelle. Et il permet, et puis là je vais m'arrêter, il permet l'émergence d'une théorie instrumentée du sujet didactique et des institutions à savoir. Et c'est pour ça que je considère que la didactique, en tant que science des conditions d'accès aux institutions à savoir, c'est la formule d'Alain, et j'ajoute de l'émergence de personnes outillées par les œuvres, parce qu'on peut revendiquer ça en tant que didacticien. Je suis psychologue à l'origine, donc je me dis que c'est par la didactique que j'ai fait la meilleure psychologie. J'aurais pas pu la faire autrement. Eh bien, cette didactique-là peut ou pourrait se positionner d'autant plus clairement dans le débat anthropologique entre sociologie et psychologie. Parce qu'en admettant que ces sciences veuillent bien l'entendre, ce qui est encore une autre affaire, et vu les mouvements théorico-épistémologiques qui animent la psychologie notamment, on n'est pas prêt d'être des interlocuteurs valides. Je dirais enfin merci Alain pour ton amitié, ta générosité scientifique, ton génie et ton inestimable contribution au champ didactique. Merci vraiment.